Pour commencer cette prédication, j'aimerais citer un texte de la Bible. Et à la fin de ce texte, j'aimerais que ceux qui en connaissent la référence donnent juste la référence. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je fais ça. Alors je vais citer le texte, mais attendez juste la fin du texte pour citer la référence, d'accord ? Alors vous attendez jusqu'à ce que je vous laisse la parole. Le texte est le suivant. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous connaissez la référence ? Jean 3,16. Effectivement, c'est certainement le texte de la Bible le plus connu, hein, avec peut-être « Au commencement, Dieu créa ». Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », effectivement. Et ce matin au culte, je souriais au fond de moi-même parce que notre pasteur avait cité Colossiens 3,16. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous vous souvenez peut-être de ce texte que notre pasteur Walter a cité, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ». Colossiens 3,16. Et notre pasteur a utilisé ce texte comme pour exprimer un des moyens qui nous permet de résister à la tentation, s'appuyer sur les Écritures. Et il s'avère que depuis que notre pasteur m'a proposé de prêcher ce soir, il y a un texte qui m'est venu et qui s'imposait de plus en plus à moi, c'est dans 2 Timothée 3,16. Les 3,16, ça va être un jalon pour notre soirée. Et 2 Timothée 3,16 dit quoi ? Ça s'affiche avant même que j'aie eu le temps de le dire. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » J'aimerais juste prendre le début de ce passage qui dit « Toute l'Écriture est inspirée. » Mon frère, ma sœur, si tu veux grandir dans la foi, si tu veux que ta foi devienne ferme, inébranlable, si tu veux progresser de plus en plus, si tu veux voir les étapes de ta vie s'enchaîner les unes après les autres de façon de plus en plus solide, alors il faut que ta foi soit basée sur les Écritures. Ta vie, ta foi, ton comportement, tes convictions, tout ça doit être basé sur la Bible. Toute Écriture est inspirée de Dieu. J'aimerais partir de cette partie du texte et puis avec vous voir ensemble ce que l'apôtre Paul, ce que Pierre, ce que Jésus-Christ, ce que plusieurs témoins disent des Écritures. Mais avant cela, j'aimerais juste dire une chose, c'est que dans mon culte personnel, ces derniers temps, j'ai aussi beaucoup été travaillé par la parabole des 4 terrains et du semeur. Et je me suis dit finalement que les Écritures ont beau être pleinement inspirées, si mon cœur n'est pas une bonne terre, la parole de Dieu, les Écritures peuvent tomber sur ce cœur, mais ne produiront pas l'effet que normalement la parole doit produire. Notre cœur doit être touché pour que la parole de Dieu puisse avoir son effet. C'est juste une parenthèse. Alors je reviens à ce texte, toute l'Écriture ou toutes les Écritures, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit la chose suivante, « Toi Timothée demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues pour certaines, sachant de qui tu les as apprises, d'ailleurs dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. » Les Écritures, Paul les appelle aussi les saintes lettres. C'était quoi ces saintes lettres ? C'était quoi ces Écritures ? C'était l'Ancien Testament. Timothée, dès son plus tendre jeune âge, avait été mis en contact avec les textes de la Bible, hébreux. L'Ancien Testament. Et c'est à partir de ces textes sacrés que sa foi en Dieu s'est petit à petit construite. Pour cela, Dieu a utilisé sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs pour que cette relation entre Timothée et les Écritures puisse s'établir et s'ancrer au plus profond de son cœur. Il y a eu tout un héritage que les parents et la grand-mère de Timothée ont transmis à Timothée. En tant que parent, c'est toujours un plaisir de voir que nos rejetons s'accrochent à la foi, qu'ils croient dans le Seigneur Jésus-Christ comme nous avons eu le privilège de croire en Jésus-Christ. Une de nos prières à mon épouse et moi, c'est quasiment tous les jours, voire parfois deux fois par jour, de demander au Seigneur, fais en sorte que nos fils et leurs épouses s'accrochent à toi, Jésus, au travers de la prière et du respect des Écritures. Nous prions cela quasiment tous les jours, parce qu'ils ont besoin d'être gardés comme nous avons besoin d'être gardés dans la vérité des Écritures. Paul est intervenu à un moment ou à un autre dans cette famille, et Paul, à un moment donné, avait pris Timothée un peu comme son fils adoptif. Vous avez vu ici qu'il est question de Denis et de Loïs, mais où il est le papa là-dedans, le papa de Timothée? On ne le voit pas, on ne le connaît pas. Alors peut-être que Paul, à ce moment-là, quand il est intervenu dans cette famille, peut-être qu'il a voulu jouer un peu le rôle de père, ou de mentor, ou de référent, on prendra le terme qu'on voudra. Et puis Paul, petit à petit, a transmis à Timothée l'amour des Écritures, l'amour de la Bible. Et non seulement cela, mais il a aussi transmis petit à petit toutes les révélations qu'il avait reçues lui-même de Jésus-Christ. Parce que Paul, lui qui était un maître fondé dans les Écritures, fondé dans les textes de l'Ancien Testament, à un moment donné a été touché par celui que le Testament présente depuis des siècles. Et il a commencé à écrire les choses que Jésus lui révélait. Alors on ne sait pas si Timothée a lu quelques textes des Épîtres que Paul a écrites aux églises à droite et à gauche, mais toujours est-il que Timothée était à bonne école. Il était certainement à la meilleure école qui soit, parce que constamment, à l'exemple de Paul, Timothée se frottait au texte de la Bible, constamment. Et quand l'apôtre Paul dit « Timothée, tu connais les saintes lettres », une expression un peu bizarre, mais voilà, lui, il considérait que les textes de l'Ancien Testament, c'était des saintes lettres. Il voulait dire par là « Timothée, la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, a un caractère particulier et unique. Pour Paul, seule la Bible était la parole de Dieu. Seuls les écrits conservés dans l'Ancien Testament étaient la parole de Dieu. C'était sa référence. Et plus tard, lorsqu'il a commencé à écrire, l'apôtre Pierre parle des écrits de l'apôtre Paul comme faisant aussi partie des Écritures. Très intéressant, si vous creusez la chose, vous trouverez ça dans la deuxième épître de Pierre. Et Timothée a évolué dans ce climat de respect pour la parole de Dieu, pour les saintes lettres, pour les saintes écritures. Et l'apôtre dit, Timothée, tu connais les saintes lettres. Tu connais. Timothée n'avait pas simplement reçu une simple information. Vous savez comme on lit le 20 minutes chaque matin. Je ne sais pas comment vous vous faites, mais moi quand j'arrive à la gare, je ne travaille pas loin d'ici, quand j'arrive à la gare, je me dirige pratiquement immédiatement vers une cassette de 20 minutes, je prends un paquet d'une dizaine ou d'une douzaine d'exemplaires, pas parce que je veux tous les lire, ça ne servirait à rien, mais parce que je les prends, j'en prends un pour moi, et puis je les distribue, je les pose sur les bureaux de mes collègues. Comme ça, quand mes collègues arrivent au bureau, ils ont des nouvelles fraîches, ou à peu près. Mais c'est juste une information. Timothée, lui, n'avait pas juste eu l'habitude de recevoir des simples informations. Pourquoi ? Parce que si on lit attentivement les encouragements de Paul à son disciple, à Timothée, notamment dans 1 Timothée chapitre 4, lisons le verset 13, « Timothée, jusqu'à ce que je vienne, continue de t'appliquer à lire. » À lire quoi ? Les Saintes Écritures. Continue de t'appliquer à exhorter. À exhorter à partir de quoi ? Ben des Écritures. Continue de t'appliquer à enseigner. À enseigner à partir de quoi ? Ben des Écritures. Ne néglige pas le don qui t'a été donné, etc. Et lisons le verset 15. Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Encore une fois, mon frère, ma sœur, si tu veux grandir dans la foi, je vais peut-être te choquer un petit peu, ce n'est pas en venant ici tous les dimanches et en demandant l'imposition des mains du pasteur, oui, ça peut aider jusqu'à un certain point, mais c'est de prendre le temps de plonger ton cœur et ton esprit dans les Écritures. Lorsque je me suis converti, en 1979, j'ai eu la chance, le privilège d'avoir été amené au Seigneur par une jeune fille protestante. Son père était pasteur réformé, qui ne croyait pas à la nouvelle naissance, soit dit en passant. Mais elle, oui, parce qu'elle y était passée. Et le premier cadeau qu'elle m'a fait, c'est un petit Nouveau Testament que j'ai lu régulièrement et régulièrement. Et le deuxième cadeau qu'elle m'a fait, c'était un petit bouquin qu'on ne trouve peut-être même plus maintenant sur le marché, qui s'intitule « Si tu veux aller loin », écrit par Ralph Challis, qui est décédé maintenant. Et cet homme de Dieu donne un certain nombre de conseils à ceux qui viennent de rencontrer le Seigneur. Parmi ces conseils, bien sûr, il y a la nécessité de prier, la nécessité de fréquenter une église biblique, mais surtout la nécessité de lire, de méditer et de s'approprier les textes des Écritures. Ce matin encore, notre pasteur nous a rappelé que nous ne devons pas simplement nous contenter de lire certains sites internet ou certains textes qui nous sont envoyés par WhatsApp ou par SMS, glaner ça et là. Mes amis, ça c'est du petit lait. Le Seigneur nous dit, prends ta parole, creuse, médite, réfléchis, prends des notes, prends un stylo, prends un papier, écris ce que Dieu te montre, creuse la parole, creuse les Écritures. Moi j'ai remarqué, de l'ensemble des amis qui grandissent autour de moi, et notamment mon pote le plus proche, il est jumeau comme moi, c'est peut-être pour ça qu'on a une certaine acquaintance, lui, jusqu'à un certain temps, jusqu'à il y a quelques années en arrière, il vivait sa foi par procuration. Il avait toujours demandé à ses parents de vivre sa foi à sa place. Quand il y avait un pépin, il allait demander à papa et maman de prier pour lui. Mais lui, il ne prenait pas de temps de prière. Et depuis quelque temps, je lui ai dit, mon cher, si tu veux vraiment grandir et changer, tu as intérêt à prendre du temps toi seul. Alors il a fait ce qu'il a vu dans la prayer room. Vous avez vu ce film, la prayer room? Ouais. Il est allé dans sa cave, il a aménagé une pièce qu'il a consacrée à la lecture de la parole et à la prière. Et tous les matins, il se lève une heure avant d'aller au travail et il passe du temps ici seul avec le Seigneur. Et sa vie est en train de changer. Il ne le voit pas, mais moi et mes autres potes, on le voit changer. Pourquoi ? Parce qu'il ne se contente plus de petit lait. Il va creuser les Écritures. Il va fouiller, il va chercher, il va se renseigner. Il interroge Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors ça ne l'empêche pas d'aller poser des questions à droite et à gauche, d'ouvrir des commentaires bibliques. Ben heureusement, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas sa priorité. Il ne saute pas l'étape de se laisser confronter par les Écritures directement. Il fouille, il cherche, il creuse. Et pour Timothée, c'était d'autant plus important d'avoir cette attitude qu'il était lui-même pasteur d'une église, celle d'Éphèse. Jeune pasteur peut-être, mais pasteur quand même. Donc il avait un certain nombre de responsabilités. Il devait notamment faire face, et ça on le lit dans l'épître que Paul écrit aux Éphésiens, il devait faire face aux hérésies, aux faux enseignants, aux déviations, aux faux docteurs, qui commençaient déjà à infiltrer l'Église à cette époque. Et Timothée devait se garantir de pouvoir tenir le cap dans la doctrine chrétienne, de ne pas se laisser influencer de droite et de gauche, mais de rester fondé sur les Écritures, de faire en sorte que sa foi reste inébranlable sur la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Alors l'apôtre Paul lui dit, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Ces choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines. Jeudi soir, nous avions notre groupe de maison et on a médité juste ces quelques lignes-là. Il arrive parfois, lorsqu'on parle à des contemporains, collègues de travail, famille ou amis ou gens qui nous entourent, il arrive parfois que ces personnes nous disent « Mais punaise, t'as quand même une sacrée audace, toi, de nous dire ça. T'es quand même culotté. » J'ai même une fois un pasteur réformé qui m'a dit cela. Je l'avais en face de moi. « Vous êtes quand même audacieux, monsieur. » m'a-t-il dit. Parfois, certaines personnes nous disent que nous sommes bien présomptueux. Ok, c'est leur avis. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons être aussi assertifs et fermes dans nos convictions? Parce que notre foi est basée là-dessus. Ça, c'est un roc inébranlable. Le reste peut être teinté d'une certaine sagesse, mais le reste n'est pas la parole de Dieu. Une tradition, des écrits, tout ce que vous voulez, ne sont pas la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ancien et Nouveau Testament. Nous avons intérêt, pour ne pas dévier, à rester ancrés dans les textes qui nous ont été transmis depuis des siècles, qui ont passé les âges, passé les temps, et qui ont prouvé par eux-mêmes qu'ils sont parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit à Timothée, ces choses sont certaines. Ce que tu lis là, c'est inébranlable. Ça ne passera jamais. C'est aussi certain que le matin se lève tous les jours et que la nuit arrive tous les soirs. Pourquoi ? Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu demeure fidèle aux Écritures parce que c'est lui qui les a inspirées. Certains sont étonnés, encore une fois, de notre audace. Encore une fois, certains nous disent que nous sommes bien présomptueux. Mais dans le fond, je me dis, mais la raison pour laquelle eux-mêmes sont parfois étonnés, c'est parce qu'ils n'ont pas cette certitude fondée sur les Écritures. Je discutais encore avec une de mes collègues, pas plus tard que la semaine dernière. Celle-ci me disait que pour elle, ce qu'il y avait de plus important, c'est d'être fidèle à ses convictions. Elle n'a pas tort jusque-là. Et que Dieu est une notion beaucoup trop grande pour qu'on puisse l'appréhender, ce qui n'est pas faux en tant que tel. Mais heureusement que Dieu nous a donné une révélation, un texte, des textes dans lesquels nous pouvons le rencontrer. Et lorsque je lui ai dit ça, elle était un peu désarçonnée. Puis elle est revenue là-dessus quelques temps plus tard. Et vendredi, elle m'a dit « Oh, tu fais quoi, Michel, ce week-end ?» Je dis « Écoute, samedi, normalement, je dois poncer la table de ma terrasse parce que là, elle a pris l'eau, elle commence à pâlir, il faut que je la reponce. Peut-être je vais faire un peu de pâtisserie aussi. Enfin, écoute, je ne sais pas, il y a des tas de choses à faire. Samedi soir, je suis invité chez des amis et puis dimanche matin, j'irai au culte. Et dimanche soir, j'ai le privilège de prêcher moi-même dans mon église. Je me dis, ah, c'est intéressant. Écoute, j'y viendrai un jour avec mon mari pour t'écouter. Je dis, il n'y a pas que moi, il y a un pasteur qui... Non, mais ça m'intéresserait de venir et de voir ce que vous vivez. Il dit, cool. Alors, je vais commencer à prier pour elle. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que sitôt que l'occasion se présentera, je lui dirai, ma chère amie, ça c'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre à côté de ça. Il n'y en a pas d'autre à côté de ça. Elle est éprouvée. Elle est éprouvée. Pourquoi est-ce que nous croyons que la Bible est la vérité, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, du début jusqu'à la fin? Ben, lisons ensemble, on l'a lu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Inspiré. Ça, c'est un mot, le mot inspiré, qui m'a souvent travaillé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le mot grec que l'apôtre Paul ici utilise pour inspirer, en fait, on ne peut pas le traduire en français par inspirer. Mais le mot grec, c'est expirer. Les Écritures sont expirées de Dieu. Les théologiens appellent ça la théopneustie. C'est un peu technique, oublié. Mais le plus important, c'est de retenir que quand Dieu a parlé, lorsqu'il nous a transmis les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, il a soufflé par son esprit pour s'assurer que celui et ceux qui vont écrire soient les bonnes personnes, pour que les mots qui ont été utilisés soient les bons mots, pour que les circonstances, les textes, les histoires, les paraboles qui ont été retranscrites soient les bons textes, les bonnes histoires, les bonnes paraboles. Dieu a veillé sur sa parole, sur les Écritures, parce que toute Écriture est inspirée, ou plutôt expirée de Dieu. Théopneustie. Et j'ai lu dans un commentaire, en préparant cette prédication, que... De la même manière que Dieu a soufflé un souffle de vie dans les narines d'Adam pour qu'il devienne un être vivant, de la même manière, Dieu a soufflé les Écritures pour qu'il puisse nous transmettre la parole de vie. Je trouvais ça absolument formidable. D'ailleurs, la Bible porte un souffle de vie en elle-même. Lorsque nous la méditons, lorsque nous la faisons nôtre, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. D'ailleurs, notre frère en est un témoignage vivant, il l'a expliqué d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. La personne qui a rencontré notre pasteur à la fin du culte ce matin, elle avait remarqué le changement qui s'était opéré dans la vie de quelqu'un qui était venu ici. Pourquoi ? Parce que cette personne a été mise en contact avec l'Église, certes, mais aussi mise en contact avec la parole de vie. Si tu veux plus de vie dans ta vie, lis les Écritures. Si tu veux plus de vie dans ta vie, lis les Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament, les deux ensemble. Alors j'essaie, je fais juste une petite parenthèse. Nous avons nos dadas. Quand je me suis converti, j'aimais beaucoup l'Ancien Testament parce que j'aime beaucoup les histoires. Le Nouveau Testament était un peu plus hermétique pour moi. Mais petit à petit, je me suis familiarisé aussi avec le Nouveau Testament. Et c'est un régal. Dieu a choisi pour l'Ancien Testament l'hébreu, et il a choisi pour le Nouveau Testament le grec, pour nous transmettre sa pensée. Et les deux sont inspirés. Les deux sont inspirés. Alors pourquoi le grec ? Tout simplement parce qu'à l'époque on parlait le grec, comme aujourd'hui on parle l'anglais, c'était la langue vernaculaire, la langue qui circulait le plus à l'époque. Alors Dieu, pour être proche de ceux dont il voulait rencontrer le cœur, a choisi le grec, mais il a inspiré les hommes et les femmes, les hommes qui ont écrit cette parole. Et elle peut toucher le cœur comme aucune parole ne pourra jamais toucher les cœurs. Toute écriture est inspirée. Je suis aussi allé voir dans l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas l'auteur, peut-être que c'est Paul, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas, mais elle fait partie du canon des textes choisis comme étant parole de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace ». La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante, pourquoi ? Parce qu'elle porte en elle les principes de vie. Là, tout ce qui a été écrit est vie. Tout ce qui a été écrit et conservé dans ces deux parties de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sont la vie. L'apôtre Pierre, un jour, disait « Mais Seigneur, à qui irions-nous toi, Jésus ? À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Toutes les paroles de Jésus qui ont été reportées, retranscrites dans le Nouveau Testament, portent en elles la vie. Les principes de vie sont reportés dans ce texte, dans ces textes. Et chaque fois, encore une fois, que nous méditons ces Écritures, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui nous est transmise. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. La parole de Dieu, les Écritures, portent le cœur de Dieu. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. On le disait tout à l'heure, on le chantait tout à l'heure. Ben, si nous voulons vivre au rythme des battements du cœur de Dieu, ce n'est pas au travers d'une expérience mystique ou spirituelle, ce que vous voulez, c'est premièrement là. C'est là que ça se passe. C'est une parole de vie, elle communique la vie. Hommes et femmes, tout au long de l'histoire, peuvent témoigner que cette parole, c'est une parole de vie. Il y a un jour un homme qui butait contre les Écritures, et notamment avec l'Épître aux Romains. C'était un homme d'église, un moine augustin qui vivait en Allemagne, et il ne comprenait pas ce que Dieu essayait de lui transmettre dans ce passage de l'Épître aux Romains qu'il méditait encore et encore. Et en préface d'un de ses livres, il a écrit la chose suivante, « Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. » Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions, c'est-à-dire les choses qu'il essayait d'accomplir. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur, je le haïssais. Et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et je murmurais violemment contre lui en disant « N'est-il pas suffisant que ce Dieu nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi ? Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'Évangile et que même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère ? J'étais hors de moi. » Tant ma conscience était violemment bouleversée et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Romains 1, 17. C'est le texte auquel il se frottait. Enfin, Dieu me prit en pitié et pendant que je méditais nuit et jour, et on peut lui faire confiance, nuit et jour, et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi, je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne, et par laquelle le juste vit, s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci, l'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Écoutez ce qu'il dit ensuite, « Aussitôt, je me sentis renaître. » et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau, et je parcourus les textes comme ma mémoire me les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait expliquer d'une façon analogue. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage de saint Paul, Romains 1,17, je vous l'ai dit, devint pour moi la porte du paradis. La parole de Dieu transmet la vie. Savez-vous qui était ce moine ? Martin Luther. On explique, on dit, certains disent, c'est peut-être, certainement à vérifier, on ne va pas s'attacher à ça, notre foi ne dépend pas de cela, heureusement, mais on dit que dans cette lutte qu'il menait avec Dieu sur la base de ses écritures, un jour il en a eu tellement marre qu'il a pris son encrier qu'il l'a jeté contre un mur, et que la tache d'encre est encore visible sur le mur de la chambre dans laquelle il était. Maintenant, je suppose quand même que, pour aider un petit peu l'histoire, de temps en temps, les gardiens de cette pièce ont quand même rajouté un petit peu d'encre. Ça ne m'étonnerait pas, pour que ça fasse plus vrai. Mais n'empêche, cet homme d'église, tourmenté par la parole de Dieu qu'il n'arrivait pas à comprendre, la méditait jour et nuit jusqu'à ce qu'enfin Dieu l'éclaire et qu'elle devienne vie pour lui. Calvin a fait une expérience presque similaire à cela. Zwingli, à Zurich, a fait une expérience de loin similaire. Wesley, le fondateur des églises méthodistes, ce grand homme du réveil, a fait exactement la même expérience alors qu'il entendait la parole de Dieu prêcher un dimanche matin au culte. Lui qui était croyant disait « Mon cœur, tout d'un coup, s'est comme réchauffé. Et ma foi dans le Christ, tout d'un coup, s'est fondée sur les Écritures. » Fantastique. La parole de Dieu porte en elle la vie. Et Martin Luther a écrit ce texte que je vous ai lu, il l'a mis en préface d'un de ses livres, et l'histoire a retenu ce texte, cette préface, comme intitulée « L'expérience de la tour ». Pas l'hôpital de la tour, rien à voir, mais l'expérience de la tour, parce que la chambre de Martin Luther était située dans une petite tour, dans une grande tour de sa maison, vous la trouvez encore à Wittenberg si vous visitez l'endroit en Allemagne. La parole de Dieu porte la vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux qu'on a lu tout à l'heure dit « La parole de Dieu est efficace ». C'est-à-dire, pour reprendre un autre mot, traduit du grec en français, opérante, active, énergique. Les Écritures produisent une vie dans la vie de ceux qui s'y frottent, dans la vie de ceux qui vont chercher la pensée de Dieu. Est-ce que tu as faim de réalité spirituelle, comme ma collègue avec laquelle j'ai parlé ? Je lui ai dit, mais toi tu as une faim de spiritualité ? Elle m'a dit, oui, et c'est une bonne chose. Je dis, je t'approuve. Le moyen par lequel elle voulait combler sa faim, je ne l'approuve pas, mais sa faim est là. Je lui dis, tu vois, tu as faim de quelque chose parce que un sage, je ne vais pas parler de l'Ancien Testament, je me suis bien gardé pour ne pas fermer la porte, un sage de l'Ancien Testament a dit, Dieu a écrit dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Il m'a dit, oui, c'est exactement ça. Dieu a écrit dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et c'est le philosophe Pascal du XVIe siècle qui a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Si tu veux que tes vides intérieurs soient comblés, si tu veux que tes faims soient apaisées, là tu peux manger. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le pain qui descend du ciel et qui peut nourrir ton âme des réalités spirituelles et de la nourriture spirituelle la plus profonde. La Bible est de l'eau qui peut te purifier. Les principes bibliques de la Bible, c'est comme un marteau qui casse les cœurs les plus durs. Enfin, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. » L'apôtre Paul rappelle là à son disciple l'importance de méditer les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'elles t'amènent à Jésus-Christ. Tout texte, toute Écriture, toute tradition d'église ou toute tradition quelle qu'elle soit, toute loi orale même qui ne conduise pas à Jésus, te conduiront dans une impasse. Tout ce qui ne conduit pas à Jésus, à un moment ou à un autre, te conduira dans une impasse. Parce que toutes les Écritures ramènent au Christ. Il me reste encore très peu de temps pour vous dire que ce n'est pas étonnant que Martin Luther et tous les réformés historiques, même s'ils ne sont pas forcément d'accord sur certains points de doctrine entre eux. Toutes les personnes qui ont adhéré au principe de la réforme ont aussi adhéré aux cinq piliers de cette réforme. Sola scriptura, l'écriture seule, Ancien et Nouveau Testament. Sola fide, la foi seule suffit pour entrer en relation avec Dieu au travers des Écritures. Sola gratia, la grâce seule te permet, grâce à ta foi, de goûter au bénéfice du sacrifice de Jésus. Solus Christus, Christ seul. Soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Mes amis, les Écritures doivent te conduire à Jésus. Jésus lui-même disait, « Père, ta parole est la vérité. » Il disait aussi à ses disciples, « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, à tel point Jésus était attaché aux Écritures. » Maintenant, se pose juste une question. Que vas-tu faire? Si tu as été d'accord avec ce que tu as entendu ou si tu as encore besoin de temps pour méditer ces choses, que vas-tu faire? Si tu es convaincu, alors il faut que tu prennes une décision. J'ai beaucoup apprécié l'interpellation de ce matin au culte, au travers de laquelle on nous disait, on va beaucoup répéter le mot « décision ». Si tu veux grandir, si tu as compris que la parole de Dieu est la vérité du début à la fin, tu dois prendre la décision de la lire et de la méditer tous les jours. Ne pas se contenter de quelques textes à droite et à gauche, ou alors de souligner tes textes préférés, et puis de « voilà, je vais aller avec ça, ça suffit ». Le Seigneur, après tout, je suis humain, hein, le Seigneur comprendra. Mais non, le Seigneur ne comprend pas que tu passes à côté de la grâce qui t'est donnée au travers du fait de creuser les Écritures. Quand on a compris quelque chose, on est responsable de ce qu'on a compris. J'aimerais juste vous proposer de baisser la tête, et maintenant ça se passe entre toi et ton Seigneur. Et je crois que c'est une bonne chose de te demander, à partir d'aujourd'hui, si tu as négligé la lecture de l'Ancien Testament et ou du Nouveau Testament, c'est le moment de changer et de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je décide de lire ma Bible entière chaque jour, parce que je veux grandir et je veux que ma foi soit fondée sur le roc, pas sur des fables, pas sur des récits retranscrits, mais sur la vérité de Dieu. Je choisis aujourd'hui d'être conséquent avec ce que j'ai compris. Seigneur, tu rencontres ces amis qui ont décidé de méditer les Écritures très régulièrement, Ancien et Nouveau Testament. C'est ta parole, et ta parole est éternelle. Et tu les amèneras à une révélation encore plus grande de qui tu es. Jésus, Fils de Dieu. Tous les trésors de la sagesse de Dieu sont cachés en toi, dit Paul. Lorsqu'on prend le temps de méditer les Écritures, on a accès à ces trésors de sagesse en Christ. Alors tu béniras mes amis, Seigneur, pour qu'ils s'enrichissent au travers de Jésus par les Écritures. Amen.